Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B en compagnie de l'inénarrable Roger.
Bien, il y a de la rythme.
Hein, inénarrable, je l'ai placé.
Ouais, il y a de la rythme, il y a de la flagornerie, tout.
Si vous avez un goodies, un briquet pour moi.
Il y a de l'effort, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effort.
454e émission de Plume et Pinceau, l'émission consacrée au 9e art. Aujourd'hui, une interview. L'homme le plus flippé du monde, alias Théo Grosjean, était avec nous à Quai des Bulles. C'est publié chez Delcourt. Il y avait deux albums déjà et il a fait le plaisir de venir nous rencontrer. Il était un peu malade dans mon souvenir.
Mais je crois qu'il est tout le temps malade, cet homme-là. Il est vraiment flippé, en fait.
Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire.
Il jouait un rôle.
Il surjouait son rôle.
En tout cas, il avait la même tête que dans sa BD.
Mais il était plutôt à corte et sympathique. Il a discuté avec nous de son travail, et puis aussi des chroniques, et puis aussi de la musique. Et on commence tout de suite. Programmation, tiens, à Erwan. Les garçons, c'est les garçons. Les filles, c'est des choix. C'est ce que chante The Monks. Je ne sais pas si ça passerait de nos jours, un morceau comme ça. Un excellentissime groupe de garage. C'était des soldats américains basés en Allemagne, si je me souviens bien. Et ils s'appelaient les Monks, et donc ils s'étaient même tonsurés volontairement. Et ils avaient même des petites cordelettes autour du cou, façon pendue. Vraiment, il y avait tout un show. C'est du garage, dédicace à Yann.
Je me demandais aussi. C'est bien parce que Yann est de retour, hein, c'est pour lui faire plaisir.
Ouais, j'avais envie de lui faire. Puis j'aime bien ce groupe. Chronique, allez, je commence.
Allez-y.
Oh, c'est gentil. BD pour plutôt pour jeunesse, mais que franchement j'ai trouvé très sympa. Je vous avais déjà parlé d'une BD jeunesse que j'avais bien aimée. Je trouve que de temps en temps il y a des trucs vraiment qui sortent, qui sont intéressants parce que même les adultes y trouvent leur compte en fait, quoi. Un peu comme quand tu regardais Shrek avant, tu te dis ah c'est fait pour les gamins, mais en fait tu te marres bien. Toy Story, etc. Là ça s'appelle Brume. Brume, c'est une apprentie sorcière. Figure classique hein, des histoires popotio. C'est une sacrée petite fille, Brume. En fait, elle habite un petit village qui vient un peu replier sur lui-même. On sent qu'il y a un peu de la pétoche dans ce village. Surtout que la sorcière qui était un peu la protectrice du village, Naya, est morte et décédée. Il n'y a plus de sorcière pour la protéger. Et Brume, elle a vraiment comme ambition finalement de remplacer cette sorcière Naya et de devenir la gardienne du village. Elle est d'un aplomb, d'une espièglerie et d'une confiance en soi qui est assez hallucinante, parce que faut bien se leurrer que quand on la découvre en train de tenter de faire ses premiers tours de magie, etc., c'est pas super convaincant. Par exemple, elle est persuadée qu'elle a transformé une petite mamie en un petit cochon noir qui va devenir son assistant. Elle l'appelle Hubert, mais en fait c'est juste que le petit cochon, si tu vas tourner le coin de la rue, quand la mamie a tourné le coin de la rue, ils se sont croisés et elle, hop, elle était partie dans ses délires de magie, et elle est persuadée que le petit cochon qui est apparu, c'est la mamie, tu vois, qu'elle a transformé. Au début, il y a tout un tas de trucs comme ça où elle est perçue, elle prend vraiment, elle est dans j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça, tac tac tac. En plus, il y a un autre petit gars, un Hugo, un petit garçon qui, on sent bien qu'il est persuadé qu'effectivement elle a des dons et qui donc la suit très fidèlement, le faire valoir, tu vois. Donc elle s'est réunie cette équipe là. Alors faut dire qu'elle a un truc pour elle, son papa qui est pêcheur, En fait, c'est son père adoptif. Il l'a trouvée et à côté d'elle, il y avait un grimoire. Donc, elle a des origines mystérieuses. Donc, elle s'est construit tout un roman et elle est persuadée qu'elle est magicienne, etc., etc., etc. Donc voilà, elle est là en train de s'affirmer, je serai la grande magicienne. Et puis elle tente une formule magique qu'il y a, une potion qu'il y a dans ce fameux grimoire. Et ça a pour effet de répandre un gigantesque brouillard qui plonge tout le village en émoi. Surtout qu'il y a une mamie du coin qui dit que la dernière fois qu'il y avait eu un brouillard comme ça, c'était le fameux dragon dont j'ai oublié le nom, mais qui était venu. Et puis heureusement qu'il y avait la sorcière Naya pour nous protéger, parce qu'autrement on aurait tous été cramés et bouffés. Et donc, évidemment, notre petite nana qui n'a pas du tout fait le lien que c'est elle qui est responsable du brouillard, mais que c'est forcément qu'il y a un dragon, elle décide de partir combattre le dragon. Tatin ! Et elle va s'aventurer dans les forêts qu'il y a autour du village, quoi, avec ses deux acolytes. L'histoire est vachement sympa, pleine de rebondissements. C'est très drôle de voir notre petite sorcière en train d'enchaîner ses démonstrations d'arrogance et surtout ses espiègleries. Et avec un dessin vraiment qui est très vif, très sympa. J'ai trouvé ça très agréable. Et le duo qui propose cette bande dessinée, là, Karine Inder et Jérôme Pellissier, ce qui est très marrant, c'est le petit livret qu'ils ont mis à la fin. Où ils expliquent qu'en fait tout ça, toute cette histoire s'est construite autour du petit village de Bretagne où ils sont venus s'installer en quittant la région parisienne. Et vraiment, c'est né là. Ils ont repris des légendes locales, ils ont même remis des gens apparemment de leur village, tu vois, caricaturés comme les habitants du villageois. Le village donc, où habite Brume est inspiré de leur petit patelin et tout. C'est vraiment hyper sympa. Et apparemment, ça va être une trilogie. Et ce premier épisode, donc de mise en place et le début des aventures, et potentiellement t'as quand même un gros dragon qui peut arriver, je vais pas spoiler, le dragon est-il effectivement là, est-elle vraiment des pouvoirs magiques, tout ça je dis rien, hein. Je dis rien, il faudra le lire. Mais je trouve ce premier album donc Brume, paru dans la collection Tcho des éditions Glénat, vraiment très réussi. Et on peut se faire un plaisir coupable, après vous le donnerez à une nièce, à un neveu et tout ça, mais prenez le temps de le lire parce que franchement c'est très 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 réussi. Voilà, ça s'appelle Brume, donc, scénario Jérôme Pellissier, dessin et couleurs. Les couleurs sont très réussies aussi, c'est très chouette. Karine Inder, et c'est donc collection de show de chez Glénat. Voili, voilo.
Oui, c'est bien ce que je me disais. Il me semblait bien avoir repéré cet ouvrage-là et me dire, tiens, c'est bizarre, monsieur fait dans la littérature jeunesse.
Ouais, mais c'est très réussi. Et des fois, il y a des, comme le plastoc que j'avais chroniqué il y a quelque temps, il y a des fois des trucs dans jeunesse qui sont vraiment malins, intelligents et en fait, avec des récits sans temps mort, quoi.
Tout à fait, Thierry. Et moi, ça n'a strictement rien à voir. Je vais rebondir avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir, puisque ça s'appelle Tati et le film Sans fin, que nous devons au très prolifique monsieur Le Guéflec Arnaud. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, ce monsieur.
Bah oui, il fait de la musique, il fait des BD, il fait des scénarios. Contrôle antidopage pour un mec comme
ça. Surtout qu'il est brestois, il doit bien utiliser quelques substances légales ou pas, j'en sais rien, mais il doit utiliser quelque chose, c'est pas possible.
Ça ne suce pas que des bigorneaux.
Un qui ne doit pas sucer des bigorneaux non plus, c'est Olivier Supiot, qui est au dessin.
Alors, on a déjà croisé lui aussi.
Ouais, qui a débuté en 99 avec Marie Frisson. Il a remporté le prix du meilleur dessin au Festival d'Angoulême en 2003. Dès 2006, il travaille sur une trilogie inspirée des aventures du baron de Munchausen chez Vent d'Ouest. Bref, il n'arrête pas lui non plus. Et on le découvre, et moi je trouve que M. Supiot a aussi une autre qualité, c'est que d'un album à l'autre, on a un peu de mal à reconnaître son dessin, et je trouve que c'est balèze.
C'est vrai, c'est un de ces auteurs qui s'adapte à l'univers dans lequel il rentre.
Et c'est d'autant plus balèze, parce que j'imagine que quand on est dessinatrice ou dessinateur, ça doit être quand même bien commode de pouvoir réutiliser quand même son style, quoi. Et là, non. Là, absolument pas. Le dessin de Monsieur Supiot qui accompagne donc ce biopic, hein, c'est pas véritablement un biopic. Le scénariste Monsieur Le Guéflec invente ou n'invente pas. Je sais, la réponse n'est nulle part dans les dossiers de presse qui nous ont été confiés, mais en tout cas, le personnage d'une jeune scripte qui essaye de rentrer sur un plateau de tournage de Tati. Et le problème, c'est que Tati, il fait tout, quoi. Il fait tout.
C'est un beau travail, ouais.
Ouais, c'est un beau travail, il fait tout, il n'a pas besoin de script. Et puis un jour, il aura quand même besoin du travail de la script qui lui permettra enfin d'être accepté. Mais dès le début, à défaut d'avoir besoin de l'embaucher comme tel, eh bien, cette script qui est fan du travail de Monsieur Tati, eh bien, va le suivre et il va se livrer auprès de cette jeune femme et il va raconter sa vie. Et là, cette fois-ci, le dessin, donc servi par le dessin de M. Supio, qui n'est pas, alors vous allez dire, je suis un grand détraqué, mais il n'y a que vous que ça pourrait être amené à dire
non,
ça.
Non, c'est pas mon genre à dire ça.
Les autres ont certainement,
surtout pas sur vous,
oublié Philippe Bertrand. Est-ce que vous vous rappelez de Philippe Bertrand avec Linda Emlar chez Métal Hurlant, des trucs de Mich un peu?
Alors, de Mich un peu, ça m'étonne pas de votre part, mais je dois vous avouer que non, c'est pas forcément l'auteur que j'ai retenu de Métal Hurlant.
Ben Philippe Bertrand, il faisait de la Mich. Et je trouve que le dessin, en tout cas les personnages que l'on retrouve dans, comment dirais-je, cet ouvrage, me font penser un peu au travail de monsieur Philippe Bertrand, qui nous a malheureusement...
C'est beau comme un album de Mich, en fait.
Ben, le dessin, ouais, puis en fait, c'est pas de la Mich, hein, c'est pas la Mich, c'est la vie de Tati.
Moi, je trouve qu'il y a un côté naïf et coloré qui va très bien avec l'univers de Tati, de pages que je vois d'ici.
C'était pareil, hein, comment avec Philippe Bertrand qui nous a quitté malheureusement bien.
C'est très rond,
très coloré avec des petits personnages.
Le fameux facteur, il est super là, il a une bonne tête.
Et donc du coup, on apprend plein de choses, plein de choses autour de Monsieur Tati. Comment en fait, avant de devenir cinéaste, il avait un rêve, celui de devenir clown. Comment en fait, effectivement, ce rêve de devenir clown se voit dans sa façon de déambuler et d'apparaître dans ses films à la façon d'un Charlie Chaplin ou d'un Buster Keaton. On appelle ça le pantomime. Et on retrouve un peu quelque part sauf que à la différence de Charlie Chaplin, il porte un espèce de feutre informe à la place d'un chapeau melon et un parapluie à la place d'une canne. Mais quelque part, c'est notre Chaplin à nous qui, curieusement, a eu presque, je dirais, était davantage reconnu à l'étranger que chez nous, quelque part. On est rarement prophète en son pays. Et aujourd'hui encore, nombre d'auteurs se prévalent du travail et de Tati en disant que Tati les avait énormément impressionnés. Et
les temps modernes, les vacances de Monsieur Hulot.
Ah non, les temps modernes, ça c'est Charlie Chaplin.
Non, c'était comment les vacances de Monsieur Hulot et un truc avec tous les gadgets modernes.
Ah oui, ça, c'est mon oncle.
Mon oncle.
Voilà. Et c'est très touchant de voir comment, effectivement, il y a plein d'auteurs qui reconnaissent à M. Tati le rôle qu'il a joué dans leur goût pour le cinéma, dans leur passion et leur envie d'en faire. Ça va même jusqu'à M. Spielberg, dont on a du mal à voir un peu, comment dirais-je, le lien qu'il pourrait y avoir entre le travail de Spielberg.
Il n'avait pas fait une espèce de burn-out à la fin. Il n'était pas crevé après
Il a eu un gros problème, M. Tati, c'est-à-dire qu'avec comment Playtime en 67, il s'est entièrement ruiné. Il a voulu construire entièrement une ville, les décors d'une ville. Il a hypothéqué sa propre maison. Il a vendu les droits de ses films précédents. Et malheureusement, ce film-là fera un four en France. Et de ce fait, il va être ruiné. Et il mettra énormément de temps avant de pouvoir retourner derrière les caméras, dans les années 70. C'est très très intéressant. J'ai appris plein de choses. Et encore une fois, pareil, Monsieur Woody Allen, par exemple, Woody Allen, qui dit Monsieur Hulot, il considère que Monsieur Hulot est le film comique le plus original et le plus achevé de son temps. Spielberg prétend que Tati l'a inspiré pour Duel.
Ah oui,
c'est hallucinant, hein. Enfin, David Lynch a déclaré que son cinéma était extrêmement moderne. Et c'est marrant de voir qu'effectivement, aujourd'hui encore, Monsieur Tati est une référence. Mais encore une fois, malheureusement, on n'est pas forcément prophète en son pays.
Et c'est pas ce qu'on voit sur les écrans de télévision française.
Mais non. Bénon. Ouais. Et c'est vrai que ce n'est pas le de Funès était davantage populaire que, qu'un Tati, par exemple. Et alors, c'est vrai que peut-être c'était une forme d'humour un peu plus datée. Et c'est là, quelque part, on pourrait le comparer à Charlie Chaplin. Vous savez comment Charlie Chaplin s'est fait tirer les oreilles pour passer du muet au parlant. Même Les Temps modernes, en 1936, qui sort en 1936, est un film muet, alors que le parlant existait déjà. Le dictateur est très peu bavard. On a un peu de parole dans Le Dictateur, mais c'est quand même avant toute chose le jeu des acteurs qui est mis en avant, les pantomimes,
ça
les,
cirque,
les gags,
ça,
etc. Comme Tati, en fait, comme Tati, pour qui, effectivement, rien ne devait être laissé au hasard, à la différence de bien des metteurs en scène français de nos jours qui disent aux acteurs, bah, tu te mets là, je vais où après, bah, où tu veux. Et voilà,
c'est faut que tu sentes le rôle.
Tu sens le rôle. Et puis, vous savez, avec des...
Sois disruptif.
Ouais, puis les dialogues hyper chiadé, mais qui finalement encombre les acteurs et les empêche d'être naturels. Ce qui n'était pas le cas chez Tati, parce que ses films sont tout sauf bavards, en fait. Ils sont bruyants, dans le sens où le bruit, la bande-son a une énorme importance, mais ils ne sont pas bavards. Tout doit s'exprimer à travers l'image, tout doit à travers les...
De mon oncle, j'ai des bruits en tête, plutôt, voilà. Des objets, etc.
Ouais, ou des déplacements. Vous savez, par exemple, dans mon oncle, le bruit que j'ai en tête, effectivement, vous avez raison, c'est le bruit de la petite, l'espèce de petite, comment, petite fontaine qui crachote, là, un bruit tout dégueulasse, tout minable, le bruit de tous les appareils électroniques, ménagers, etc. Ouais. Et ouais, Tati est aussi le témoin de comment, de cette période qui change, cette période qui mute, avec, dans mon oncle, on voit ça, entre l'évolution entre le Paris qu'il aimait bien, le Paris des fortifs, à des fortifications, et le pari des pavillons hyper high-tech pour l'époque, etc.
Le réfrigérateur, le vélo à moteur.
Voilà, voilà. C'était, ouais, ça nous fait penser à Vian, l'univers de Vian. Et il y a un truc que j'ai adoré, vous savez, parce qu'on parle encore de mon oncle, parce que moi mon oncle, c'est mon préféré, hein, je dois vous avouer. J'ai beaucoup plus adoré mon oncle que... Peut-être plus facile, hein, c'est une œuvre qui est plus facile que les suivantes. Et dans le bouquin, on découvre la maquette de la maison. What, c'est trop bien. Vous savez, la maison de Tati, la maison de l'oncle, justement, eh bien, c'était une maquette qui était collée sur une vraie maison. Et qui faisait que le personnage de mon oncle apparaît à différents moments, etc. De la vous savez quand il descend, il quitte son appart, son petit appart, et puis on voit à un moment donné, on voit que sa tête, après on voit que son genou, on voit que ses pieds, etc. Tout était véritablement détaillé.
Ouais, il y a un plan, ouais.
Ah ouais, c'est super. Et on voit encore une fois, on ne peut que louer le travail de documentation de Monsieur Le Gueffec, parce que sans le talent de Monsieur Le Gueffec, on n'aurait pas su tout ça. Ah, c'est un historien, hein, Monsieur Le Gueffec. J'ai lu encore quelque chose de lui dont je me rappelle plus. Je dis, je suis malade aujourd'hui. J'arrive plus à me rappeler. Et voilà, Arnaud Le Gueffec est nominé. Comment il a écrit un petit bouquin sur... alors ça va pas ni vous plaire, ni me plaire forcément, mais un bouquin sur comment la musique celtique, enfin, un groupe de musiciens avec Mélène Favennec, etc., etc. Eh ben, c'est encore Le Gueffec qui est à l'écriture de ce bouquin-là. Ce monsieur-là n'arrête jamais. C'est un historien, c'est un homme très, très talentueux, et en plus, il a des gros points, faut pas y dire du mal, parce qu'il tape. Ça, je sais pas, mais il est brestois.
C'est paru aux éditions Glénat.
Glénat, et c'est magique, un très, très beau livre, charmant pour les amoureux de Tati, et pas que, pour ceux qui veulent découvrir qui était Tati, plus dans le détail. Tati et le film sans fin, Arnaud Le Gueffec au scénario, Olivier Supio au dessin, un ouvrage excellent que nous devons aux éditions Glénat, dont j'attends toujours, effectivement, qu'il m'envoie un briquet, quoi, ou un t-shirt, quelque chose.
Une respiration musicale, Alvadin Cocker, You're Gonna Bop.
We'll see.
We'll see.
There's
Oh ben là, on est parti loin dans les années. Hein.
Mais oui, mais je trouvais que ça collait bien, moi, avec Monsieur Tati.
J'ai bien aimé ce morceau. Qu'est-ce que je veux dire ? Il va falloir déjà qu'on aille à Quédébule. Hein.
Ah, déjà ?
Ah bah ouais, qu'est-ce qu'il cause, le Roger, quand même ? Il cause,
gars. Ah ouais, mais Gouéfec m'avait envoyé un petit message. Il dit, si tu rates ma chronique, t'es mort. Je vais à Brest. Il m'arrive d'aller à Brest assez souvent, donc je ne pouvais pas me permettre. Tant pis, je vous parlerai de Genèse et Prozac, d'un ami inintéressant et de Rémi Lascaux plus tard.
Eh ben moi, je vous parlerai de la dernière tuerie de Atsushi Kaneko. Donc, je suis sûr, vous attendez avec impatience la chronique également.
Alors là, c'est aller vite dans la besogne, parce que je croyais que vous aviez amené votre livre de messe, en fait.
Rappelons alors, voilà, nous repartons donc à Quédébule, nous repartons retrouver Théo Grandjean, plus ou moins maladif, qui va nous expliquer
même
comment.
Plus que moins, on va dire.
Ouais, mais qui va nous expliquer qu'il est hyper flippé et que Instagram l'a presque sauvé. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Un jeune homme talentueux, sympathique, et donc ça s'est tenu dans la session 2022 de Quédébule.
Ah, ça vous dit ça parce qu'il est beau gosse, vous avez jeté votre dévolu. Vous avez jeté votre dévolu. Vous croyez que je vous vois pas jeter votre dévolu et me présenter comme un vieillard adipeux Vous avez jeté votre dévolu et puis c'est tout.
Allez, c'est parti avec introduction musicale, bien évidemment.
Ravi de vous recevoir, monsieur Théo Grosjean. Donc, je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça.
C'est ça, merci de me recevoir.
Venu présenter à Quédébule le tome 2 des aventures de l'homme le plus flippé du monde. Moi, je vous avais découvert dès le tome 1, en espérant bien sûr que la perspective de notre entretien ne vous ait pas trop stressé, etc.
Non, ça va.
Je parie qu'ils vous l'ont tous fait, tous les journalistes, non ?
C'est pas tous, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais.
Mais en plus, je n'y avais pas pensé.
Quelle originalité !
Non, mais je n'y avais pas pensé. Je me suis dit, pour un peu, c'est vrai. Parce qu'après, on va voir au long de l'entretien si tout ça n'est pas qu'une gigantesque escroquerie pour draguer des filles. On va voir. Mais comment. On va en savoir plus. Et donc, bah, du coup, on a quand même une tradition chez Plume et Pinceau. Quand on rencontre pour la première fois un nouvel auteur, on lui demande un petit peu bah, pourquoi, comment il est tombé dans cette marmite infernale de la bande dessinée alors qu'il aurait pu avoir une vie honnête et tranquille, élever des enfants peinards.
Et devenir milliardaire,
qui sait, en gagnant au loto.
L'un n'empêche pas l'autre, cela dit, on peut jouer au loto et au trottoir de BD, je pense. Mais...
Comment vous êtes tombé dans cette marmite? Et puis, bah, je ne sais pas, que, si vous avez eu des autrices, des auteurs qui vous ont marqué, qui vous ont donné envie de, bah, d'en faire, vous aussi.
Alors, moi, je suis tombé dedans, on va dire... pardon, j'ai un petit virus qui n'est pas le Covid. Hein, je tiens à le préciser, mais je vais tousser quelques fois.
Quand même, ouais, mais vous avez quand même une sale tête, quand même.
Ah bon, bah... Ouais,
vas-y, mets-le à l'aise, c'est bien. C'est
non,
bien.
Mais moi, la dernière fois que j'étais blanc comme ça...
Ah oui, ah non, et moi je suis toujours blanc de toute façon, ça c'est pas... Enfin bref. Et donc, oui, je suis tombé dedans avec, comme beaucoup de... Enfin, le déclic, on va dire, ça a été, comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, Astérix Obélix, je pense. Et Tintin aussi, qui étaient les deux BD un peu... Bah, la Sainte Trinité avec Gaston Lagaffe, qui était à la maison. Et après, en fait, j'ai beaucoup relu, et ensuite, plus tard, beaucoup plus tard, donc vers 8-9 ans, pour des raisons, en gros, d'organisation, ma mère me laissait souvent à la Bibli, parce qu'en fait, bon, c'est un peu compliqué à raconter, mais je me retrouvais souvent dans une Bibli jeunesse de Paris, parce que ma mère avait été mutée à Paris. Et en fait, c'était une bibliothèque qui était très garnie en bande dessinée. Et du coup, en fait, je me suis mis à lire plein de choses que je ne connaissais pas du tout. Et notamment, je pense qu'un des gros chocs que j'ai eu, c'était la série Donjon de Trondheim et Sfar. Et en fait, après, voilà, je me suis mis à lire plein de trucs différents. Et en fait, surtout, ça m'ouvrait à une bande dessinée plus libre, en fait, plus expérimentale. Et j'aimais beaucoup, en fait, l'impression que j'avais, c'était que les... Le style que certains auteurs et autrices avaient, c'était ce style très minimaliste, presque un peu enfantin, faussement naïf, qui me donnait l'impression que je pouvais faire la même chose et être publié très rapidement. Et donc ça m'a donné envie de... En fait, je suis pas un très très bon dessinateur, donc du coup c'est vrai que ça m'a donné envie de marcher sur leurs traces, en fait, voilà.
Après, très très bon dessinateur. Il peut y avoir des très beaux dessins, mais s'il n'y a pas d'histoire derrière ou le scénario, oui, enfin, oui. Personnellement, j'accroche pas.
Hein. Moi aussi, après, c'est vrai qu'en plus, il y a des dessins très minimalistes qui sont des très bons dessins. Je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvais dessins, mais c'est juste que ça me semblait plus abordable dans mon cas que, par exemple, d'autres séries que je lisais d'ailleurs en parallèle, comme par exemple les séries. Je lisais beaucoup les séries chez Soleil, là, les genre L'Enfeust, etc. Ça me paraissait impossible, quoi, parce que c'était trop technique et tout.
Mais aujourd'hui, bah, je sais pas, si on prend par exemple Monsieur Dubuisson, que j'adore, on est vraiment là dans le dessin minimaliste, ça cartonne, et on a l'impression que ces personnages sont expressifs, comme le vôtre d'ailleurs.
Ouais. Oui, non, mais c'est pas du tout une limite pour personne maintenant.
Erwan,
première BD, 22 ans, c'est L'Empire du Mal.
L'Empire du Pire, ouais.
L'Empire du Pire, pardon.
Presque ça, pas de souci.
L'Empire du Pire, ouais. comment vous y êtes pris pour être publié aussi jeune?
Je m'y suis pas vraiment pris, en fait. On est venu vous prendre. Ouais, on m'est venu me prendre parce qu'en fait, j'avais. C'était suite à la sortie du Star Wars numéro 7, dans la chronologie. Dans la chronologie classique. En fait, j'avais beaucoup aimé le personnage machiavélique du film, enfin méchant. Et du coup, j'avais fait des blagues sur ce personnage que je trouvais qu'il y avait un potentiel humoristique assez fort dessus. Sans prétention, en fait, c'était juste, j'ai publié ça à l'époque, c'était sur la plateforme Tumblr. Et en fait, ça a bien marché, mais pas en France, aux États-Unis en fait, parce que c'était. Je publiais en anglais. Enfin, ça a bien marché. Tout est relatif, mais ça avait une petite communauté de gens qui suivaient le truc et tout. Et en fait, il y a une éditrice en France qui m'a contacté, c'était chez Jungle. Et en fait, du coup, j'ai fait cet album, mais en réalité, ça m'a un peu ennuyé au bout d'un moment. Même si je suis content de l'avoir fait, mais c'était trop long, en fait. J'avais envie de faire quelques histoires sur ce personnage. Et j'ai été juste content d'être publié, en fait, donc voilà. Mais c'est ma première BD, effectivement.
Et vous poursuivez en 2018, où vous faites un carton. Là, on peut quand même encore plus parler de carton, en tout cas d'après nos sources. Vous remportez deux prix le prix Pépite BD du Salon du Livre de la Presse Jeunesse de Montreuil, ainsi que le prix en 2019 de la meilleure bande dessinée science-fiction du festival Utopial.
Ouais.
Pour un dont vous parlez d'ailleurs dans le deuxième épisode.
C'est ça.
Ouais, et c'est là, on peut dire que c'est lié à votre rencontre avec Monsieur Trondheim à l'école Émile Cohn.
Votre idole de jeunesse.
Oui, exact. Ouais.
Bah, alors, en fait, il nous fait peur, à perso.
Ah ouais, bah je comprends. Ouais.
Ah, il paraît austère.
Oui, il est assez austère, ouais. Mais c'est quelqu'un qui a un très bon, enfin c'est une très bonne personne, mais c'est vrai qu'il faut, c'est vrai qu'il est, il est pas forcément facile à, à aborder, mais voilà.
Vous l'avez eu comme prof ?
Je l'ai eu comme prof pendant un an, et son cours m'a beaucoup apporté en personnellement, puis dans mon dessin aussi. Et ensuite, on est resté en contact parce qu'après moi j'ai arrêté l'école. On est resté en contact et du coup, il m'avait proposé, comme j'étais un assez bon élève dans sa classe, il m'avait proposé de lui envoyer, si j'avais des projets à envoyer, de lui envoyer quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je lui ai envoyé le gentil orc sauvage qui est sur lequel il m'a beaucoup aiguillé sur le scénario. Il l'a pas écrit à ma place, bien sûr, mais il m'a donné des conseils qui m'ont beaucoup servi et qui me servent encore aujourd'hui. Mmh. Et donc, voilà, c'était très cool. C'est une super expérience dont j'ai un très bon souvenir. Et la BD a eu effectivement deux prix. Après, le succès commercial a été assez confidentiel, pour être honnête. Mais la BD a eu des prix et une reconnaissance, on va dire... comment on appelle ça ?
D'estime
Ouais, d'estime, un succès d'estime.
Ouais. Ça aide quand même quand on est un jeune auteur. Ça aide
beaucoup,
ou une jeune autrice,
ça aide beaucoup.
Ça donne confiance, quoi.
Ça donne confiance déjà, et puis en plus, ça intéresse un petit peu les éditeurs. Ça attire le regard sur notre travail. Mais c'est vrai que ça m'a plus apporté sur le plan professionnel que sur le plan public. Et c'est plutôt ma BD d'après qui a vraiment, où j'ai vraiment trouvé mon public.
Et justement, c'est la question que monsieur.
On en arrive à l'homme le plus flippé du monde. Ouais. Ça, je trouve que c'est un super titre, en fait.
C'est vrai.
Merci beaucoup. L'homme le plus flippé du monde, c'est tout de suite. Enfin, ça interpelle. Comment c'est là où on en arrive. Est-ce que c'est vraiment vous? Enfin, d'où est venu ce titre? Allez, voilà. D'où est venu ce projet?
Le titre est venu. Alors même que je n'avais pas du tout l'intention. C'est presque une blague en fait, parce que en fait, à la base, j'avais pas l'intention d'en faire une série. Et en fait, j'en ai juste publié une histoire sur le réseau social Instagram. Mm. Et en fait, j'avais fait cette blague de faire une slide, enfin une image au début. Avec marqué l'homme le fait du monde épisode 1, comme s'il y allait avoir des centaines d'épisodes, ce qui a finalement été le cas, mais qui à la base n'était pas forcément ma volonté, et justement pour sous-entendre que j'étais vraiment quelqu'un de très anxieux en fait. Donc c'était plus une blague, et c'est venu très très comme vraiment comme ça naturellement dans la soirée où j'ai fait cet épisode. Et en fait la BD marchait bien, les gens étaient très réactifs à ce thème. Et moi, je prenais beaucoup de plaisir à la faire, donc j'ai continué.
Alors, ce qui est rigolo, moi, je crois qu'une de vos trouvailles, en tout cas, c'est le choix de la couleur. D'ailleurs, ça nous rappelle un petit peu en plus vilain. Parce que vous avez choisi une drôle de couleur. Un espèce d'ocre jaune. C'est un marron qui ne veut pas être marron. C'est un orange, qui n'est pas jaune non plus.
Ouais.
On ne peut pas passer à côté de votre BD, quoi. On sait qu'une fois que ce code couleur, c'est l'homme le plus flippé du monde, c'est l'homme le plus flippé du monde, point.
Ouais, c'est vrai.
C'est volontaire du coup cette pourquoi cette couleur là?
Bah cette couleur je l'aime bien simplement cette espèce de d'ocre un peu étrange. Et aussi c'est un choix quand même un petit peu volontaire, parce que comme c'est sur Instagram et que c'était le début de la BD sur Instagram entre guillemets. Maintenant c'est beaucoup plus évident, mais à l'époque je pensais qu'il fallait vraiment attirer l'attention de la personne, accrocher son regard, parce que je savais que le dessin était quand même un peu au second plan par rapport à la photo et aux vidéos sur Instagram. Donc mon but, c'est d'accrocher le regard du spectateur et aussi de créer une identité visuelle cohérente et qui me permette d'être vite repéré.
Mais ce qui est grave avec cette histoire-là, c'est que vous m'avez convaincu que cette espèce d'ocre marron bizarre, c'est la couleur du flip.
Ah ouais,
Je
trouve que ça fonctionne bien, parce que c'est... Le jaune, c'est une couleur un peu alarmante, quoi. Enfin, le jaune, en général, c'est une couleur un peu alarmante. Et je voulais pas non plus que ça soit rouge, parce que j'aurais trouvé ça un peu moche. Enfin, moche. J'aurais trouvé ça un peu trop agressif. Mais le jaune, je trouve qu'il y a un côté aussi... C'est une couleur que j'aime bien, mais qui est aussi un peu... qui est dans l'histoire des couleurs, elle est...
C'est une couleur qui est connotée négativement. La couleur d'Israël, c'est le bleu, c'est pas le jaune. Et pourtant, c'est pour ça que les nazis ont choisi une étoile jaune pour les stigmatiser, parce que c'est le bleu, c'est l'étoile bleue, l'étoile de David.
Et je crois qu'au Moyen-Âge, c'était la couleur de la maladie aussi.
Exactement, couleur des non-grévistes, etc. Jaune, c'est pas...
C'est vrai que dès qu'on voit un panneau stop, un truc, il y a toujours du jaune dedans. Pour moi, c'est un truc qui interpelle, qui stresse, quoi. Donc au final, ça colle avec le thème.
Et du coup, vous parliez d'Instagram. Moi, ma fille, elle vous a découvert par Instagram. En fait, quand je lui ai dit que... tiens, on va faire Théo Grosjean. Elle vous suit sur Instagram. Mais elle m'a dit, mais tu as vu qu'il est aussi sur YouTube. Vous êtes aussi animé sur YouTube maintenant.
Oui, ouais.
Ça a démarré quand? Alors, commençons par Instagram. Donc Instagram, pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est tout prépublié sur Instagram, en fait, c'est ça?
Pas tout à fait, il y a toujours 20 pages exclusives dans les albums pour remercier un petit peu entre guillemets le lecteur. Mais oui, en fait ça a été prépublié. Après, la volonté que j'avais pour cette série là, c'était que ça soit accessible à tous et à toutes sans payer, parce qu'en fait j'aime beaucoup ce principe de ne pas payer pour lire de la bande dessinée. Et après, si la personne avait envie de me soutenir, ou si elle avait envie de posséder l'objet ou de le partager plus facilement à certaines personnes qui n'auraient pas Instagram, c'était vraiment une option pour moi, le livre. Et en fait, au final, le bouquin a très bien marché, donc c'était devenu plus qu'une option. Mais oui, à la base, la BD, pour moi, était vraiment quelque chose de... En fait, ça avait sa place sur Instagram, parce que Instagram, c'est un réseau qui est en soi assez anxiogène. Dans le sens où l'algorithme est fait pour nous faire ressentir des émotions négatives, en fait, en premier lieu. On doit ressentir un mal-être de ne pas être là où les autres sont, dans leurs photos, dans leurs... Et un mal-être de comparaison, de jalousie, etc.
C'est le problème de tous les réseaux sociaux en général, ça.
C'est le problème de tous les réseaux, mais je pense qu'Instagram, c'est le premier réseau à avoir concentré son attention sur l'image. Et donc, forcément, tout est... En fait, Instagram, par rapport à Facebook, par exemple, c'est un réseau qui est optimisé pour paraître le mieux possible. Parce qu'en fait, par exemple, sur un réseau comme, par exemple, Snapchat ou TikTok ou Facebook, c'est un peu plus expérimental. On expérimente des choses, on fait une petite vidéo, ça n'a pas besoin d'être propre, nickel et tout. C'est des lieux plus créatifs, selon moi. Après, c'est une analyse personnelle. Mais on fait moins forcément attention à la forme. Instagram... C'est un réseau qui est pris comme quelque chose de très professionnel, où les gens se montrent sous le meilleur angle possible.
D'accord.
Et donc ça paraît
très beaucoup plus fort. Ouais.
Et donc je trouvais ça marrant, en fait, de publier sur ce réseau aussi une BD qui parle d'anxiété, en fait, parce que c'était une façon aussi de me présenter sous le moins bon jour possible sur le réseau, où on se présente sous le meilleur jour possible.
Oui, je suppose qu'on vous l'a demandé 100 fois aussi, cette chose. On est d'une banalité affligeante, ça me déprime. Mais forcément, on se demande jusqu'à quel point toute cette petite misère du quotidien, ces coups d'angoisse que vous matérialisez avec plein de petites créatures ou personnages, jusqu'à quel point c'est vous, en fait.
C'est moi et pas tout à fait moi, dans le sens où de toute façon
je vous le souhaite.
Ouais, après disons que ça concentre des moments d'anxiété, donc évidemment je suis pas constamment anxieux, mais je suis quand même quelqu'un de très anxieux et ça me ressemble quand même beaucoup. Après, je pense de toute façon que la fiction, l'autobio, c'est un peu un leurre, parce que de toute façon on choisit de représenter des choses, c'est toujours une forme de fiction. Donc c'est pas tout à fait moi, c'est un personnage, mais c'est disons...
Mais comme vous lui donnez votre nom, votre
apparence... Ouais, voilà, non mais en fait mon but est de faire en sorte que ça soit le plus moi possible, mais ça le sera jamais vraiment, quoi. Ça sera toujours.
Ma fille me faisait remarquer, elle me dit c'est impressionnant aussi le nombre de commentaires, c'est rigolo.
Ouais.
Et du coup, vous les regardez de temps en temps?
Oui, je regarde. Alors les commentaires, oui, je regarde plus les messages par contre, parce que c'est trop. Je reçois beaucoup de messages privés.
Ah oui, d'accord.
Et c'est un peu chiant à gérer et pas toujours facile, parce que c'était parfois des gens qui ont des choses à dire qui dépassent mes compétences d'expertise.
Mais alors du coup, c'est ça. Est-ce que vous devenez, soit les gens vont aller vous poser des questions en vous demandant des conseils pour lutter contre les angoisses, est-ce que ça va être... C'est fou. Est-ce qu'en lisant les commentaires, vous-même, vous faites un peu d'autothérapie
Oui. C'est vrai. Après, je donne pas de conseils, en fait, parce que j'ai pas de conseils à donner. En fait, je rapporte juste une expérience, mais... Si, une fois, j'ai juste donné des petits conseils, parce que beaucoup de gens me demandaient des conseils. Donc j'avais fait juste deux pages qui sont à la fin du tome 2 maintenant.
Oui.
Où je donne des petits conseils qui sont des choses personnelles que j'applique dans mon quotidien, mais c'est pas. Je suis pas un coach en bien-être ou je sais pas. C'est pas le but en fait, mais juste. Voilà, j'ai juste partagé ce qui moi me faisait du bien. Voilà. Mais,
ouais,
mais
la respiration et tout ça, je me souviens.
Ouais, la cohérence cardiaque. Et plein de petits conseils comme ça.
Mais c'est vrai que vos angoisses, c'est toujours c'est des choses finalement que tout le monde peut ressentir. Arriver dans une soirée,
ouais,
vous avez pas vous n'abordez jamais, je sais pas, l'angoisse liée par exemple Poutine, l'Ukraine, etc. Des choses qui viennent de l'extérieur. C'est toujours des choses qui viennent vraiment de l'intérieur.
Ouais, c'est vrai. Mais honnêtement, je pense que alors parce que j'ai un petit peu arrêté la série récemment parce que je me suis consacré à d'autres projets. Je pense que si je la reprenais aujourd'hui, et ça, je vais sûrement le faire bientôt. C'est totalement possible que je parle de ce genre de problème là. Déjà je m'interdis rien dans la série, donc ça peut très bien être des angoisses. Une fois j'ai en raconté l'angoisse que j'avais de faire un prélèvement urétral par exemple qui m'a terrifié.
Mais là vous y allez fort là.
c'est une petite lime qui rentre de 10 cm dans l'urètre, donc c'est assez terrifiant. Et parfois j'ai parlé aussi d'écologie, d'angoisse sur quelques strips, j'ai parlé d'angoisse sur l'écologie, donc je m'interdis rien en fait, c'est vraiment toutes les angoisses. Mais là actuellement moi je suis très anxieux par rapport au monde réel,
ouais,
pour
c'est
le
ça.
Coup
moi pour Poutine, pour le coup, moi quand j'ai au mois de février là, quand j'ai lu que pouf il attaquait, vous savez, j'ai eu envie d'aller faire caca. Du coup vous savez quand vous apprenez une super nouvelle,
non c'est vrai que moi ça me fait très peur. Je suis vraiment pas bien par rapport à tout ça, et c'est probablement un des trucs qui m'angoisse le plus maintenant. Donc si je reprenais la série, j'en parlerais probablement en fait, parce que ça fait partie de mon quotidien. Mais de toute façon en fait, L'Homme le Feu du Monde, ça évolue en permanence, parce que c'est un journal de bord en fait. Donc les événements ont une influence sur la série en fait.
Alors, une petite question, excusez-moi, et je vous laisse. Comment, là, je voulais revenir sur Instagram. Est-ce que Instagram, vous vous en servez aussi comme une sorte de sélectionneur, c'est-à-dire en fonction des commentaires, voir des histoires qui marchent, des histoires qui ne marchent pas? Est-ce qu'il y a des histoires, par exemple, qu'on pourrait trouver sur Instagram? Et puis finalement, vous trouvez que ça, vous n'avez pas à la mettre dans l'album?
C'est jamais arrivé que je ne mette pas. Alors quoi que peut-être si j'ai dû en mettre, il y a peut-être une histoire que j'ai pas mis parce que c'était je la trouvais nulle en fait, avec du recul. Mais pour tout dire, je l'ai même supprimé d'Instagram parce que justement
était vraiment été nul.
Ouais, mais parce qu'en fait justement j'ai envie de dire je suis presque plus regardant de ce que je mets sur Instagram que de ce que je mets dans l'album.
Parce que ça a peut-être été déjà sélectionné, bah, validé, enfin, en fait, au moins à vos yeux.
Je fais très attention à... parce que par exemple les épisodes que je mets en exclu sur l'album, je dis pas qu'ils sont moins bien, mais je me prends moins la tête. Donc je vais plus prendre des trucs qui me font rire comme ça sur le coup, mais je vais pas me dire est-ce que ça va faire rire mes 181 000 abonnés.
187 000 pour être précis, mon voilà. Dernier passage. Est-ce que vous avez le montage d'ailleurs avec vous normalement, l'homme le plus flippé du monde, c'est vous qui avez le livre? Parce qu'on a une question normalement, j'espère que
Erwan
ne l'a pas. Vous avez une autre question, pardon.
En fait, on est en train de parler beaucoup de stress, de flip, mais il faut quand même rajouter, c'est drôle en fait. Il faut quand même qu'on insiste là-dessus.
Bah, c'est gentil,
c'est drôle. Non, mais c'est vrai. Même quand, il faut, c'est aussi un remède au flip, j'ai envie de vous dire. Et c'est important l'humour, non, finalement.
Ouais. Bah moi, j'aurais du mal à dissocier déjà l'humour de la bande dessinée en général. Pour moi, la bande dessinée, c'est un média d'humour avant tout. Après, on peut faire de la bande dessinée pas humoristique, mais moi, c'est ce que j'aime dans la bande dessinée. Je trouve que le format de la bande dessinée est, en fait. D'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est que quand j'ai fait la... Parce que j'ai co-réalisé la série qui a été adaptée de L'Homme fait du monde, je me suis rendu compte que c'est très dur. En fait, il y a des trucs qui sont drôles dans la BD que ça passe pas très bien en animation. Et il faut tout retravailler, en fait, même sur des choses très subtiles. Parce qu'en fait, il y a un humour intrinsèque à la bande dessinée qui est l'humour du... Comment dire ? C'est l'humour de la case, en fait, du... Il y a des choses qui se passent, il y a des trucs qui sont drôles parce que c'est dans des cases et parce que c'est statique.
C'est pas la même, c'est pas le même rapport au temps de façon l'animation et le
plus facile pour les ellipses peut-être en bande dessinée que par rapport.
Puis, par exemple, il peut y avoir une chute, je trouve, il peut y avoir une chute de qui est drôle parce que juste en tant que chute comme ça, une phrase, on peut très bien finir une BD sur une phrase et si c'est bien senti et tout, c'est très drôle. Et dans l'animation, finir un épisode juste sur une phrase et pof, il y a le générique et tout, par exemple, juste pour prendre un exemple parmi d'autres, c'est bizarre. À moins que vraiment ce soit une très très bonne phrase bien sentie. En BD, c'est, enfin, je sais pas, il y a un humour propre qui fonctionne pas toujours. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Et oui, du coup, pour moi, je suis très attaché et c'est. Et j'aurais du mal à traiter ce sujet premier degré sans faire d'humour parce que. Ça serait trop je sais pas
ce serait plombant peut-être
ouais plombant et puis peut-être pas plombant mais je sais pas je sais pas je trouve que c'est quand même un sujet qui est drôle aussi quoi enfin c'est souvent des situations qui sont drôles en fait parce que c'est un truc que j'imagine dans ma tête et qui en fait est complètement débile dans la réalité en général c'est un truc pas grave du tout donc ce contraste là est d'emblée drôle on peut pas le tourner de manière enfin, on peut, mais c'est moins intéressant, je trouve.
Ça a été on a parlé un peu, on a abordé un petit peu. C'était difficile le passage en animation. Ça prend du temps pour réadapter chacune de vos histoires ou une histoire.
Ouais, ça prend un certain temps. Ouais. Moi, ça m'a pris. En tout, on a passé 7 mois sur le dessin animé.
Wow.
Mais pour donner une autre idée, c'est pas très long. Il y a des dessins animés, un dessin animé classique, on va dire. Avec des épisodes longs, enfin une certaine longueur, c'est 3 ans parfois. Ah. C'est très très long.
C'est là que vous deviez être content de faire dans le dessin un peu plus minimaliste.
Comment, pardon ?
C'est là que vous deviez être content de faire dans le dessin un peu plus minimaliste.
Après, alors en animation, ça peut poser des vraies problématiques le dessin minimaliste parce que faut que ce soit très propre. Il y a des choses qu'on peut pas masquer avec un dessin minimaliste. Enfin, c'est pas forcément un gain de temps.
D'accord.
Mais ce qui est un très gros gain de temps, par contre, c'est la couleur unique. Ça, c'est un très gros gain de temps parce que la couleur, c'est une galère en animation.
D'accord.
Voilà.
Alors on va vous demander, on a posé la question là à tous les auteurs qu'on a.
Question fil rouge.
Ouais, donc okay. Question fil rouge qu'on a décidé. C'est de demander aux auteurs de nous parler de leur couverture. Comment ça s'est fait, ce choix de couverture pour, pour le tome 2, celui qui nous présente.
Donc pour ce tome-là, ok. En fait, je cherche toujours pour les couvertures une idée visuelle qui raconte. En fait, je pense, alors pour flipper, là j'ai pensé un petit peu comme. J'essaye de penser dans l'esprit un peu de Sampé, dans le sens où ce que j'aime bien chez Sampé, c'est qu'il y a une idée qui se raconte tout de suite dans l'image. Bon, après, ça, je ne me compare pas à Sampé, hein, parce que je suis très très loin. Mais en fait, je réfléchis une image qui raconte une histoire toute seule.
Par elle-même, quoi.
Par elle-même. Et qui raconte une idée, en l'occurrence là. Donc c'est le personnage qui se cache derrière
silhouette normale.
Une silhouette de lui-même qui est plus à l'aise que lui dans une soirée. Donc c'est simplement une idée pour raconter le malaise qu'il ressent à interagir avec les autres. Et sur l'homme fait du monde, la couverture pour moi elle doit être le plus simple possible. Parce que c'est un album simple en fait, c'est pas quelque chose de complexe, donc je vais à l'essentiel. Si je trouve une idée qui se fait en un dessin, je le fais quoi. Donc voilà, là c'est un peu plus détaillé que le premier tome. Le premier tome c'est vraiment juste le personnage avec son ombre, il a juste un regard vers son ombre comme s'il avait peur de sa propre... De lui-même.
Est-ce que vous allez pas finir par comment garder le trait tremblé à force de dessiner l'homme le plus flippé du monde? Est-ce que
c'est possible un jour que ça. Mais en vrai, c'est tout à fait vrai ce que
c'est
vous
dites.
Parce qu'en fait, ça a eu une influence sur mon dessin. Et, par exemple, là, on voit un petit peu les pliés, les trucs comme ça. J'ai gardé ce truc-là.
Parce que je trouvais ça rigolo. Comment je dis, à la fin, il va dessiner tout tremblé.
Ouais, non, mais c'est je vais vers dans cette direction-là. Ouais.
Alors, à notre grande honte, j'ai lu une interview hein, sur cet album-là, mais on ne l'a pas lu, c'est le Spectateur.
Ouais,
est-ce que vous pouvez nous en parler de. Parce que on a une dernière question sur les projets, mais du coup, on n'a pas parlé du Spectateur. Bon, on ne l'a pas lu, on ne l'a pas vu.
Pas de souci. Bah, du coup, le Spectateur, pour résumer, c'est un peu dur à résumer, mais en gros, c'est une BD un peu plus expérimentale que ce que j'ai fait jusque-là. Et ça raconte toute la vie de sa naissance à sa mort d'un personnage qui ne parle pas.
Donc caméra subjective tout le temps.
Ouais, caméra subjective, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un album conceptuel entre guillemets pour raconter un sentiment, une émotion que j'ai depuis longtemps, qui est un sentiment un peu de voir le sentiment du spectateur en fait simplement, de voir les événements de la vie.
Vous êtes spectateur des scènes que vous vivez.
Et c'est une angoisse en fait que je ressens de pas avoir de contrôle sur ce qui se passe et de. Et en fait, c'est aussi une métaphore de, on va dire, de la vie et du monde dans lequel vivent les jeunes de ma génération, dans le sens où on est spectateur aussi des événements du monde par les différents réseaux sociaux auxquels on est confronté. Depuis tout petit, moi, depuis que je suis né quasiment, j'ai Internet, donc je subis, entre guillemets, ce flot d'informations permanent. Et ça donne ce sentiment-là, je pense. Et donc, j'ai voulu le faire retranscrire sans l'écrire, sans faire... Alors, ce personnage, il se sent mal parce que c'est un machin. Donc, j'ai essayé de trouver un tricks, une technique graphique pour faire ressentir ça au lecteur.
Ok. Je vois que le soleil commence à vous taper dans les yeux.
Ouais.
C'est parce qu'il va bientôt peut-être être l'heure de nous quitter, bon Erwan, je ne sais pas.
C'est vrai.
Est-ce que vous avez d'autres projets par
le Spectateur?
J'ai deux projets actuels. Donc c'est un livre qui s'appelle L'œil du cyclone. C'est plus ou moins une suite de L'homme fait du monde, mais pas vraiment. C'est de l'autobio aussi, mais c'est plus doux comme récit, plus léger, on va dire. Avec des touches de tristesse et d'amertume comme la vie réelle. Et donc ça raconte une histoire amoureuse entre deux personnages qui ne croient pas en l'amour du tout en fait et qui sont très rationnels. Et donc voilà, c'est ça l'histoire. Et en fait ça apprend aussi voilà, cette espèce d'équilibre étrange entre céder au récit de l'amour et en même temps avoir conscience que c'est un truc un peu chimique qui se passe dans le cerveau. Donc voilà, ça raconte ça. Et mon autre projet, c'est une bande dessinée qui est pré-publiée dans le journal de Spirou depuis 2 ans et demi, qui s'appelle Elliot au collège, et qui va être publiée en bande dessinée en janvier. Et c'est, voilà, là, c'est vraiment mon projet sur lequel je suis depuis 2 ans et demi. Je suis à fond dedans. Et ce que j'aimerais faire, si ça se vend assez, c'est de faire évoluer ce personnage un petit peu comme, je sais pas, comme un Antoine Doinel.
Il va aller au lycée, voilà. Il va aller à la fac.
Ouais, après, j'aimerais bien, en fait, si ça marche, parce que bon, si ça marche pas, je pourrais sûrement pas continuer. Mais si ça marche, j'aimerais bien qu'il aille au lycée, qu'il aille à la fac et qu'il suive vraiment le personnage comme ça sur
un parcours de vie.
Ouais, un parcours de vie. Et j'aimerais bien, en fait, mon ambition, c'est de faire un truc hyper long, comme ça, un peu, où il rencontre d'autres personnes, et après, parfois, ça raconte la vie d'autres personnages, etc.
Les Rougeons Macquart, quoi.
Enfin. Ouais, un peu comme... j'adore, en fait, ce principe-là, un peu ce qui est... Ce que, un peu les illusions perdues aussi. Toutes ces récits qui se passent sur des centaines de pages et où les personnages évoluent et tout, je trouve ça fascinant. Donc j'aimerais bien faire le mien, mais avec un personnage de ma génération, enfin, un personnage qui est plus proche de moi, quoi.
De votre génération.
Ouais, je vois le truc. On vous remercie, pardon, monsieur Théo Grosjean, d'être venu.
Merci beaucoup.
Non, vous êtes encore plus pâle que tout à l'heure.
T'es pas gentil.
Ça m'inquiète.
T'es pas gentil.
Mais non, je le bisque juste, quoi. Bah non, là, il est à Saint-Malo. Vous avez vu, il fait très beau. Vous allez voir, vous allez prendre plein de couleurs.
Ouais, j'espère.
On vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.
C'était chouette, Get the Rhyme. On se retrouve la semaine prochaine. Déjà, j'ai pas vu passer cette émission. Mais le temps passe vite avec
mais
vous,
c'est
Roger.
Monsieur Grosjean aussi, il est bavard à nous donner toutes ses prescriptions médicales. Au pire, je vous ai pas parlé du jour où j'avais les oreilles décollées. Enfin, bref. Voilà. Monsieur Grosjean est tout le temps malade. Donc, du coup, bah, il nous a pris toute l'émission.
Du coup, vous devrez attendre la semaine prochaine pour avoir cette excellente chronique sur Evol de Atsushi Kaneko. Vraiment le manga de cette rentrée pour
qui
moi.
Qui ressemble furieusement au livre de messe de ma grand-mère, quand même.
Vous avez peur. Vous avez peu, peur. Ouais. Vous avez
j'arrête pas de cauchemarder en ce moment, alors vous voyez.
Mais c'est vraiment très très réussi. On se voit donc la semaine prochaine, si tout va bien, si on a le droit, comme on dit usuellement. C'était Plume et Pinceau, 454e émission.